Chères toutes, chers tous, bonsoir et bienvenue dans Par les temps qui courent, une conversation qui dure une heure tous les soirs, ce soir, avec Odur Ava Olafsotir.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler,
ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Auður Ava Olafsdóttir.
En 1942, une femme écrit à son enfant pour lui raconter sa venue au monde et la manière dont son nom lui fut donné. Accouchant dans une étable de la campagne islandaise, aidée par un vétérinaire, elle pense donner naissance à un garçon qu'elle voulait appeler comme l'aigle, et c'est une fille qui arrive. Le père, sans consultation, décide de la baptiser Elka, du nom d'un volcan. Lui qui aime tant le spectacle de leur éruption, leur grandeur et leur caractère terrifiant. C'est peut-être avec cette énergie-là que, devenue jeune femme, Elka poursuit le destin d'écriture auquel elle tient. Une poursuite difficile dans l'Islande de cette époque qui aime la poésie, certes, mais qui l'aime écrite par des hommes. L'amitié, la lecture, la sexualité, une forme de résistance aussi à ce qu'on voudrait pour elle, lui permettent de ne pas céder sur ce désir, mais à quel prix ? Odur Ava Olafsdóttir, vous suivez la jeune Elka dans l'Islande des années 60 pour ce roman Miss Island qui vient d'obtenir le prix Médicis étranger. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci.
On va aussi saluer votre traducteur depuis l'islandais pour les éditions Zulma. Il s'appelle Eric Bourri. Puisque je dis le nom de cette, comment on pourrait dire, ce personnage principal de Miss Island, on va écouter le romancier Alain Gerber dire l'importance de ce choix-là.
Le diapason, c'est la musique de l'écriture qui est pour moi l'aventure première, et c'est elle qui détermine les climats, les personnages, et j'essaie de ne pas trop sortir de ça parce que je sais par expérience que si je tente par exemple de laisser la commande à l'intrigue elle-même, c'est-à-dire d'œuvrer à partir de structures qui se développeraient en raison de leur logique propre, je vais échouer parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai besoin, en fait, d'arriver toujours à des inconnus qu'il faut résoudre d'une façon ou d'une autre. Et en relisant récemment un certain nombre de déclarations de Borges, j'ai trouvé cette idée très belle qu'il y avait, et il ne faisait pas entre eux de rapport hiérarchique, mais il y avait en littérature des littérateurs, il cite par exemple Proust, Joyce, Kafka, et il y avait des romanciers. Et la grande caractéristique du romancier, dont le prototype, si vous voulez, serait pour Borges Cervantes, c'est qu'il invente d'abord un personnage. Et c'est le personnage, c'est ce qu'il y a dans ce personnage, qui va absolument tout déterminer.
Un personnage qui détermine tout. On entend donc la voix d'Alain Gerber en 1986 dans Culture Matin sur France Culture. Est-ce que vous diriez que le choix de Elka, le choix de ce personnage principal, a entraîné l'entièreté de l'écriture de ce livre ?
Oui, le choix de Hekla. Hekla, elle est baptisée au nom du volcan Hekla, qui était en fait considéré comme la porte de l'enfer l'autrefois, au Moyen-Âge. Et c'est important dans le contexte du roman, puisque c'est un roman qui parle de la création, de la liberté et de la beauté. Mais là, je fais... dans mes romans, la nature n'est jamais un beau décor. Tout ce qu'on met dans un texte, c'est la pour une raison, c'est là parce que ça a un sens. Et dans ce roman, je fais le parallèle entre la création en art, dans l'art, l'écriture, et la création en nature. Donc il y a, vous savez, l'Islande, c'est le pays le plus volcanique au monde, avec ses 200 volcans actifs, et avec le réchauffement climatique et les glaciers qui se fondent, on va avoir plusieurs éruptions dans le futur. Et là, c'est la création de la nature, c'est la création en l'art, et il y a le volcanisme qui est sous-jacent tout au long du roman, sous les couches du texte. En fait, il y a une éruption qui commence le jour de l'anniversaire de l'héroïne Hekla, où une nouvelle île surgit de l'océan au sud de l'Islande en 63, Surtsey, l'île noire.
Et ce sont des choses qui ont été très primordiales dans l'écriture de ce roman, ce nom pour votre héroïne, l'idée que les volcans comme ça, que ces forces souterraines seraient extrêmement présentes, ça a été là dès le départ.
Oui, dès le départ, je pense aussi cette idée, j'avais, parce que par rapport à mes autres romans, celui-ci se distingue parce qu'il se... l'histoire se déroule dans les années 60, en 63. Moi, j'avais envie de mettre en parallèle ce qui se passait à l'époque dans cette île encore isolée. C'était un pays d'hommes, très patriarcal, conservateur. Et j'avais envie de le mettre en parallèle. C'est l'année de l'assassinat de Kennedy qui a lieu dans la même semaine où a commencé l'éruption de Surtsey. C'est l'année où a fait le fameux discours Martin Luther King, I have a dream. Mais c'était un pays méconnu par le reste du monde. Moi, j'avais envie de pousser un peu plus loin l'idée de l'île qu'on trouve dans presque tous mes romans, jusqu'à l'isolement, jusqu'au repli sur soi. Et donc, oui, la nature, ça joue un rôle, mais dans le contexte de l'écriture.
D'ailleurs, dès le départ, puisque cette héroïne, elle naît presque comme on mettrait au monde un veau. C'est un vétérinaire, c'est la dernière fois qu'il est censé intervenir dans une ferme. Après, il va prendre sa retraite et c'est en fait un enfant qu'il met au monde. C'est aussi pour dire que cette petite fille-là et cette jeune fille aura une énergie volcanique et d'une certaine manière un peu animale. Est-ce que vous diriez ça? Est-ce que vous diriez qu'elle a une forme de sauvagerie dans la manière dont elle veut échapper à tous les carcans?
Oui, on peut dire ça. Dans un livre qui parle de l'écriture, qui parle de la création, qui parle de l'écrivain, selon le mythe, il faut un chapitre sur la naissance. Elle est accueillie par un vétérinaire qui est venu inséminer une vache à la ferme. Et c'est aussi ce premier chapitre qui parle aussi de la naissance de l'écrivain, puisque c'est son père qui l'emmène à voir l'éruption de Hekla. Elle aura 4 ans, c'était en 47. Il le dit toujours, son père, elle est née trop tôt. Elle est en fait trop originale. Comme écrivain, on la verra plus tard, mais elle est née trop tôt, donc 4 ans avant l'éruption de Hekla. Mais c'est après ce voyage, il emmène la petite voir l'éruption et elle change. Elle commence à parler autrement. Elle commence à regarder le ciel en haut. Mais normalement, si on regarde, moi j'ai un peu étudié les autobiographies écrites par les hommes écrivains, normalement, ils sont nés poètes. Ils deviennent des génies vers l'âge de 13 ans, alors que si on le compare aux autobiographies écrites par les femmes, et ça commence souvent à l'âge de la puberté, à l'adolescence, et le corps est central. Et c'est souvent un corps problématique, en tout cas pour une femme de la génération de mon héroïne qui est née en 42, puisqu'elle peut tomber enceinte. Mais là, selon le mythe de Rousseau, il faut parler de la naissance de l'écrivain. Moi, je pensais que c'est pas tellement romantique, peut-être, être accueilli par un vétérinaire, mais je pense que c'était beau quand même.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle naît dans les mots de sa mère. Vous choisissez, Odoura Ava Olavdottir, de commencer par ce chapitre-là qui est elle-même, qui est lui-même écrit par la mère. C'est un petit carnet, elle décide, cette femme, de raconter pour la femme qu'elle sera plus tard, cette petite Hecla. Elle décide de mettre par écrit comment elle est née, comment il y a eu discussion ou pas du tout discussion à propos de ce nom. Donc c'est aussi dire qu'elle naît dans le langage d'une autre, et la mettre dans une sorte de continuité.
Oui, tout à fait. Et puis elle quitte la terre de ses mères, me dire ainsi. En fait, il y en a deux parties dans le roman. En islandais, je l'appelle la première partie Motherland, le plus proche en anglais est Motherland, mais en français, on peut pas dire la matrie, mais c'est un peu cette idée que la patrie de l'écrivain, c'est la langue maternelle.
Cette langue maternelle, vous écrivez évidemment en islandais, mais on entend que vous parlez français. Comment est-ce que vous avez reçu la traduction par Éric Bourri? Qu'est-ce que ça fait justement de lire la transposition de cette langue dans une langue que vous parlez aussi?
Ouais. Oui, c'est vrai, j'écris dans une langue minoritaire, marginale, parlée par 340 000 habitants. Donc je partage ce destin avec l'héroïne qui, à l'époque, les Islandais étaient 180 000 en 63. Mais on a beaucoup de chance, en fait, avec les traducteurs français, les écrivains islandais comme Éric Bourri et Catherine Eyjolfsson qui a traduit
les précédents
romans. Et puisque vous parlez de la musique, on parlait de la musique là avant, c'est ce qu'il y a le plus important, je trouve, c'est que chaque traducteur qui réécrit mon livre dans sa langue maternelle, qu'il trouve la musique qu'il convient, qu'il faut. Parce qu'avec chaque roman, il y a une musique spéciale.
Et celle-ci, ce serait quoi, la musique de ce roman-là?
La musique, c'est plutôt... moi, j'ai fait aussi de l'expérience... Moi, j'ai essayé un peu le temps à l'intérieur du roman m'intéressait. Alors là, j'ai coupé un peu plus, peut-être, que dans mes romans précédents. J'ai essayé de faire accélérer le récit sans que le lecteur perde le fil pour autant. Donc, on pourrait dire qu'il y a plus d'espace entre les mots, entre les phrases, justement pour que le lecteur y met sa musique.
C'est une sorte de musique qui cavale, qui avance.
Voilà. Mais moi, j'entends le texte en tant que musique.
Toujours.
Oui, toujours. Oui, la sélection des mots, ça fait... moi, j'écris vite, mais c'est comme une musique quand même.
Vous parlez d'un destin partagé, ou bien dans les années 60, par 180 000 personnes qui parlent et écrivent islandais, un peu plus désormais, presque le double. On va écouter une réalisatrice, Solveig Anspach, parler aussi de destin partagé, mais cette fois par les femmes islandaises.
Ma mère, par exemple, elle, quand elle était petite, elle voulait devenir architecte parce que l'Islande était une colonie danoise, que les Islandais étaient très très pauvres, qu'elle et sa famille vivaient dans un tout petit espace, qu'il y avait plein de rats, enfin c'était très sale tout ça. Et donc son envie c'était de construire, de dessiner des maisons peut-être aussi belles que celles des Danois, des colons, pour qu'il y ait la place. Et donc elle a quitté l'île de Vestmannaeyjar, je crois qu'elle avait 12 ou 13 ans. Elle est allée vivre chez des membres de sa famille à Reykjavik pour aller dans un bon lycée. Tout ça dans la perspective de plus tard aller à l'étranger parce qu'on ne pouvait pas étudier l'architecture en Islande parce qu'il n'y a pas assez de gens pour avoir une école d'architecture. Je crois même aujourd'hui c'est encore pas possible. Et donc aller apprendre l'architecture pour dessiner ces fameuses maisons. Et quand elle est arrivée aux Beaux-Arts, à Paris, elle ne parlait pas un mot de français, c'était la seule femme. Et donc voilà, mais elle avait ça dans la tête. Et moi quand j'étais petite et que je lui disais quand je serai grande, je veux être cinéaste. Je me souviens que mon père me disait souvent « Mais les femmes, elles ne sont pas cinéastes. Elles peuvent être monteuses ou scriptes, même si lui nous amenait à la cinémathèque une fois par semaine avec ma sœur, alors que ma mère me consolait, mais elle y croyait vraiment et elle me disait « Mais les femmes peuvent tout faire. Il faut juste qu'elles soient plus tenaces. Mais tu peux tout faire. » Et ça, je crois que c'est quelque chose... Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose du Nord, mais en tout cas... c'est quelque chose, je dirais, que les femmes islandaises partagent. Elles sont très volontaires aussi, peut-être parce que les hommes, pendant longtemps, étaient des marins, donc ils n'étaient pas là. Donc c'est elles qui géraient la famille, le pays, etc. Et donc il y a des femmes très fortes là-bas.
La voix de Solveig Anspach en 2004 sur France Culture dans l'émission Tout un Monde. C'est toujours délicat d'essayer de formuler des choses assez générales sur les femmes du Nord ou les femmes islandaises. Néanmoins, il y a quelque chose dans ce que raconte cette réalisatrice qui relève d'un destin partagé, peut-être d'abord du destin du Nil. Est-ce que vous diriez que le prix à payer, c'est d'abord de partir, hein, qu'il s'agisse là d'étudier l'architecture, les arts, le cinéma, ou qu'il s'agisse pour votre héroïne de l'écriture.
Ouais. Oui, mais quand même, dans les années 60, un des points de départ du roman, ce qui m'a donné l'envie de raconter cette histoire, c'était quand j'ai découvert qu'une femme qui voulait écrire, qui voulait être écrivain à cette époque-là, était seule. Et que les hommes considéraient les femmes comme leur muse, leur source d'inspiration. Et elles étaient là à les soutenir. Et peu importe si les femmes étaient des poètes talentueuses comme l'héroïne du roman. Donc c'était un monde... d'hommes et aussi le monde littéraire. Et dans le roman je mets en parallèle, je dis c'était autant il y avait autant de difficultés de devenir une femme, de s'affirmer comme une femme écrivain que d'être un homosexuel à l'époque.
Notamment à travers une amitié très importante pour Hekla, ouais, ouais. Un ami à elle qui est en effet homosexuel et dont on sent que ses choix de sexualité l'empêchent socialement d'avoir la liberté qu'il voudrait avoir. Vous dites que vous avez réalisé que dans les années 60, il y avait une profonde solitude pour les femmes qui faisaient ce choix-là, mais seules pourquoi ? Parce qu'elles étaient rares, parce qu'elles ne le disaient pas, parce que vous faites aussi une sorte de peinture du milieu de l'édition islandais à ce moment-là, parce qu'elles n'avaient pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice pour faire paraître leurs livres.
Parce que l'idée du poète était masculine, le mot poète était masculin, et parce que le monde littéraire était dirigé par les hommes, et parce que c'était une société, un pays conservateur, patriarcal, et la place de la femme était au foyer quand même. Moi, j'ai d'abord pensé écrire un roman sur une femme de la génération de ma grand-mère. Mais,
c'est-à-dire pas
qui était née vers 1900, en fait. Ma grand-mère, c'était une poète parlante, elle rêvait toujours d'écrire, mais elle ne l'a pas fait, elle ne pouvait pas. C'est un peu une ode à nos ancêtres, femmes et hommes qui ont pas, on sait pas ce qu'ils auraient devenu s'ils avaient les moyens que j'ai eu, par exemple, moi, dans ma vie. Donc, oui, c'était en fait, le métier du poète écrivain en Islande jusqu'à il y a une vingtaine d'années. C'était surtout un métier d'homme.
On parlait de cet ami homosexuel, jeune homme, avec qui elle échange, avec qui notamment elle échange des lectures. Il y a une autre amie très importante dans le parcours de Hekla, qui est une jeune femme qui, elle, fait d'autres choix, ou alors on fait d'autres choix pour elle. Quels sont ces choix-là?
Oui, alors, oui, c'est la meilleure amie de l'héroïne, Issei. Elle est femme au foyer, elle a un bébé, elle attend un autre. Ce sont des jeunes gens créatifs, sensibles, qui ont les mêmes aspirations. Mais elle n'a aucune stimulation, elle reste seule. La seule personne qu'elle rencontre, c'est le poissonnier. Et à l'époque, on emballait le poisson dans des journaux. Alors elle demande un poème, s'il vous plaît, ou une nouvelle, pas de la nécrologie en tout cas. Et donc, mais c'est une poète parlante, elle ne sait pas qu'elle fait de la poésie. Elle arrive à transformer sa vie quotidienne de tous les jours en une aventure, en beauté, en quelque chose de plus grand. Et elle compose des pièces de théâtre sans s'en rendre compte que c'est son... Elle appelle des conversations, mais ça fait 60 pages quand même. Et moi, je me suis amusée à la faire composer des polars 50 ans avant que le polar soit connu et populaire dans les pays nordiques.
Et cette femme-là, elle peut pas se penser écrivaine, elle peut pas se penser poétesse, notamment parce que elle se pense mère et qu'elle a conscience de la sorte de prison dans laquelle, malgré eux peut-être, la place ses enfants. Elle dit même qu'elle a deux enfants et que son mari en voudrait bien d'autres après et qu'elle a peur que une cage se referme autour d'elle, de plus en plus petite, de plus en plus serrée. Ça aussi, c'est un portrait de la maternité dans les années 60 islandaise. Qui est âpre d'une certaine manière.
Oui, elle rêve, elle fait des cauchemars tout le temps qu'elle interprète comme elle va avoir 5 enfants. Mais
et elle en est terriblement effrayée.
Ouais, elle dit que c'est elle qui dit cette phrase. Les hommes sont nés des poètes et deviennent des génies vers l'âge de 13 ans, alors que nous, les femmes, on tombe enceinte. Ce qui nous empêche de créer, d'écrire.
Vous faites quoi comme relation entre la question de la maternité et de la création, littéraire en l'occurrence?
Là, je sais pas, mais en tout cas, moi, personnellement, je me sens pas tellement proche de l'héroïne qui écrit avec la sûreté, avec la confiance d'un homme. Moi, je me sens plus proche de cette...
Issei.
Oui, Issei. Moi, j'avais... Quand j'ai commencé à écrire, contrairement à l'héroïne, moi, j'ai commencé tard, à 37 ans. Et moi, j'avais un enfant. Le plus jeune avait un an. Donc, j'étais avec un bébé. Et l'aîné avait 6 ans. Mais les femmes de cette génération, nées en 42, elles n'avaient pas encore accès à la contraception. Donc.
Pas très loin de votre texte à vous, Odour Avaolafsdottir, il y a un autre texte auquel on pense, qui est celui de Virginia Woolf, dont va nous parler Chantal Thomas.
Ça, c'est le grand texte qui continue de m'éclairer, Une chambre à soi de Virginia Woolf. Oui, c'est magnifique. Et elle dit aussi, elle pose vraiment les deux conditions, puisqu'il s'agit de écrire, qui est, pour écrire, il faut une chambre à soi et un minimum de moyens financiers qui vous rend indépendante. Et c'est sûr que quand j'ai lu ça, ça paraît simple, mais j'ai eu une impression d'évidence totale, et que beaucoup de personnes, et en particulier de femmes, ne peuvent pas écrire parce que, justement, elles n'ont pas une chambre à soi. Et pendant très, très, très longtemps, je pense à ma grand-mère ou ma mère, elles n'avaient pas de moyens financiers autonome, pour rien dire du 17e, 18e, 19e siècle, où les femmes avaient vraiment rien, puisque même leur héritage ne leur appartenait pas.
Je rassemble des mots. Une nuit, je me relève pour écrire. Je m'assieds. Dans le lit, un corps chaud se tourne vers le mur en se pelotonnant dans la couette. Sa respiration est profonde et régulière. Le chat dort dans le renfoncement sous la lucarne. Le réveil indique 5 heures du matin. Mon père est en route vers la bergerie pour nourrir les moutons. La vitre s'est embuée pendant la nuit. Le cadre est couvert d'une pellicule blanche. J'enfile le chandail du dormeur. Je vais à la cuisine chercher un torchon pour éponger. Le givre fondu coule sur la vitre. Je le suis du bout de l'index. En dehors des cris des mouettes, il règne sur la rue Skolavor d'Oustigour un silence digne des hautes terres. J'attrape la machine à écrire sous le lit. J'ouvre la porte de la cuisine. Je pose la machine sur la table et je place une feuille sur le cylindre. C'est moi qui ai la baguette de chef d'orchestre. J'ai le pouvoir d'allumer une étoile sur le noir de la voûte céleste et celui de l'éteindre. Le monde est mon invention. Une heure plus tard, le poète apparaît en pantalon de pyjama dans l'encadrement de la porte, le chat sur les talons. « Qu'est-ce que tu fais? Tu écris ?»« Je me suis réveillée, tu avais disparu. »« Je t'ai cherché. »« Je me demandais si la terre ne t'avait pas englouti, allait-il, comme s'il venait de faire une longue marche depuis l'autre côté de la cloison. » Comme s'il avait traversé la lande en quête d'une brebis égarée qui n'est pas redescendue de la montagne et qu'il découvre enfin, niché sous un promontoire terreux, le dernier endroit où il aurait imaginé la trouver. À moins qu'il ne m'ait cherché dans un rêve.
Odour Avaolafsdottir, Jeanne Aléos lit un extrait de votre texte Miss Island dans la traduction pour les éditions Zulma vers le français par Éric Bourri. On entend bien dans cet extrait-là qu'il lui faut négocier avec les espaces, y compris avec la présence d'un poète, de ce poète. Alors aussi pour faire le lien avec l'archive de Chantal Thomas qu'on entendait précédemment dire combien le texte de Virginia Woolf, Une chambre à soi, avait été primordial dans sa pensée de l'écriture. Quel rôle jouent les espaces dans lesquels Hekla, votre héroïne, écrit ?
Oui. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais eu une chambre à soi. Pour écrire, j'ai toujours, je partage ça avec les ruines, j'ai travaillé toujours à plein temps avec l'écriture jusqu'à il y a un an et demi. J'ai enseigné à l'université et donc j'écrivais aussi le soir, la nuit et le week-end et pendant les vacances de Noël, etc. Mais quand même, ceci dit, moi je pourrais écrire n'importe où, n'importe quand. Il ne me faudrait pas une chambre à soi, à moi. L'inspiration est toujours là. Alors on est en train d'écrire aussi quand on n'écrit pas. Mais Hekla, l'héroïne, il a fallu qu'elle travaille. Donc elle travaille comme serveuse pendant la journée. Elle écrit en cachette. En fait, son amoureux vient de découvrir dans l'extrait qu'on a entendu qu'elle écrit elle aussi. Il est poète, mais on l'appelle le poète dans le roman, mais il est le seul à ne pas savoir des idées. Alors, il va découvrir que sa fiancée, comme il l'appelle, n'est pas née pour lui donner de la confiance.
De la confiance.
Confiance, excusez-moi. Et elle n'est pas sa muse. Il l'appelle sa Pénélope, sa muse, donc. Mais elle est bien, elle est une écrivain beaucoup plus talentueuse que lui. Alors à un moment, il lui demande, mais pourquoi tu restes avec moi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très sûr de lui. Alors elle répond, et là j'inverse un peu l'ordre des choses, puisqu'elle dit, tu es un homme, tu as un corps.
Ce qui dit toute la place que vous faites à la sexualité de cette femme dans votre roman, Odur Ava Olavsdottir, c'est son amant. Et si elle reste près de lui, c'est parce qu'elle aime faire l'amour avec lui et qu'elle a décidé de ne pas du tout choisir entre faire l'amour avec des hommes, avec cet homme en particulier, et écrire des livres, entre être une amante, une femme avec une sexualité épanouie et le fait d'écrire. Comment est-ce que vous liez les deux? Est-ce que pour vous, ce sont deux gestes de liberté dans cette Islande des années 60?
Alors, je lis les deux, en fait, par le fait que, par la question de ce que vient en première, être écrivain ou poète, ou l'écriture. Parce que pour certains, pour les hommes qui forment cette société de poètes, dans le roman, dans le contexte du roman, c'est la condition existentielle d'être un poète qui vient en première, peu importe s'ils écrivent quelque chose ou pas. Mais pour la femme, c'est l'écriture qui compte, et que l'écriture, et peu importe si elle trouvera son nom sur la couverture d'un livre ou pas.
Vous voulez dire peu importe le statut social que ça confère.
C'est le besoin existentiel d'écrire, vraiment, qui vient en première pour elle. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Auður Ava Olafsdóttir. Stundum þú varst fyndin.
Quand vous dites qu'elle doit travailler, donc elle est serveuse dans un café pour gagner sa vie, c'est un endroit où on ignore complètement son talent d'écrivaine, mais par contre on n'ignore pas du tout son corps et on nourrit pour elle un autre destin. On est désormais à la capitale. Qu'est-ce qu'on lui propose de devenir à cette jeune femme ?
Alors, au lieu de perdre son temps à écrire, on lui conseille plutôt de participer à un concours de beauté et devenir Miss Island. Mais c'est le titre du roman. Mais je suis désolée pour quelqu'un de dire que Miss Island, c'est pas une reine de beauté, c'est en fait l'écrivain. C'est la question qui représente le pays. Mais c'est aussi un roman sur la beauté, mais en art. Et moi, je me suis c'est ce qu'il y a peut-être de plus personnel dans ce roman, c'est que moi j'ai émis mes petites idées sur la création, dispersées dans la bouche des personnages, comme Issei, mais aussi de l'héroïne.
Vos petites idées sur la création qui parlent, on imagine, du XXIe siècle, de l'époque dans laquelle vous écrivez, vous, Odour, Hava ou Lafsdottir, vous diriez que les choses ont énormément changé pour l'Islande et de manière plus générale, puisque vous voyagez beaucoup, pour les femmes qui écrivent aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les années 60, mais néanmoins, il y a toujours un point de départ de ce qu'on écrit, ancré dans l'actualité, dans le présent. Et malheureusement, c'est pas un monde idéal, surtout au niveau des minorités, parce que c'est un roman qui parle des gens marginaux comme l'homosexuel Yon Dion,
et qui est donc l'ami très proche de
Hedgehog. Voilà, c'est un roman sur l'amitié, puisqu'il se soutient mutuellement entre eux, et en fait, à l'époque, ceux qui n'avaient pas l'orientation sexuelle qu'il fallait, ils fuyaient l'Islande. Ils allaient notamment à Copenhague, d'où une partie du roman se déroule, et parce que d'abord, ils voulaient voir si la vie était plus facile là-bas, était meilleure, et aussi parce qu'ils pensaient qu'il y avait plusieurs comme eux. Mais la question que le roman pose, c'est où va se réfugier un écrivain qui écrit dans une langue que personne ne comprend, qui n'est pas traduite, comme moi. Elle n'a pas cette science. Et c'est aussi, moi j'avais envie d'écrire sur cette idée d'aller voir ailleurs, de traverser l'océan, le rapport entre l'île et et un pays étranger, cette idée d'étranger qui était assez particulière à l'époque.
Parce que votre héroïne, Helga, est toujours en mouvement depuis le départ de cette ferme familiale jusqu'à la quantité de départs finalement qu'elle effectue. Elle quitte beaucoup cette Helga. Je reviens à une question que je vous ai posée un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que c'est d'une certaine manière sa condition première d'être toujours celle qui doit partir pour aller vers son destin d'écriture ?
Je pense que ce que lui tente, c'est la proposition de son ami, son meilleur ami, son premier amour, d'ailleurs, Yontion, qui est le fils illégitime d'un soldat étranger, une femme islandaise. Donc il a ce double position de minorité. Alors, il a trouvé un travail à Copenhague, c'est lui qui part en première, et c'est lui qui l'invite à venir. Il envoie des livres des écrivains danois de l'époque et il dit, moi j'ai le travail, tu pourras enfin écrire. Tu pourras te réveiller le matin et écrire.
Vous dites que c'est un roman sur l'amitié, évidemment, et on l'entend avec l'amitié entre elle et ce jeune homme. C'est aussi un roman sur la puissance de la lecture. Elle a un livre avec elle, très proche. C'est celui de James Joyce. On écoute la voix.
And bowed his spirit before that arrogant admonition. He would never have led the chosen people out of their house of bondage. Nor followed the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the Eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of inspiration shining in his countenance and bearing in his arms the tables of the law, graven in the language of the outlaw.
Voilà de quoi faire résonner la voix de James Joyce lui-même en train de lire un extrait de son roman Ulysse en 1924, une archive qui avait été diffusée pour la première fois en 1948. Pourquoi est-ce que vous choisissez que ce soit son compagnon, son premier compagnon de route, James Joyce ?
Ouais, ce livre de plus de 1000 pages que l'héroïne lisait avec l'aide du dictionnaire anglais-islandais. Moi, j'ai imaginé qu'elle lisait des livres qui n'étaient pas connus en Islande à l'époque, mais qui étaient quand même de la littérature mondiale importante, parce que à l'époque, on lisait encore beaucoup de la poésie romantique, sur la nature, et on avait aussi un prix Nobel en littérature, Halldór Kiljan Laxness, et cela suffisait en soi de faire de nous un peuple littéraire. ce mythe d'Islande étant un pays littéraire. Mais le roman ne parle pas des auteurs officiels de l'époque, mais raconte l'histoire de ceux qui n'étaient pas inclus dans l'histoire. Donc, alors, moi, j'ai voulu que l'héroïne, qui a une écriture qui ne ressemble pas à aucun autre écrivain islandais à l'époque, j'ai voulu qu'elle lise des auteurs étrangers qu'on ne connaissait pas, comme Simon de Beauvoir. Alors, son ami Jonathan était marin, il a les ventres, le pêche. Le poisson à Grimsby. Alors il revenait avec des livres, avec des qu'on connaissait pas en Islande. Et moi j'ai vérifié par exemple que le deuxième sexe de Simon Beauvoir avait été traduit en anglais déjà en 63. Et il est revenu avec Sylvia Plath qui s'est suicidée cette même année en 63. Et puis installé à Copenhague, il lui envoie des romanciers danois comme Inger Christiansen, Karen Blixen, Tove Detlefsen, entre autres, des romanciers formidables. Alors, j'ai voulu construire ce monde littéraire autour d'elle, qui elle ne lisait pas les mêmes livres que les poètes masculins à l'époque.
Ce rapport très fort à la lecture, vous jouez aussi avec, à travers les titres des courts chapitres, des courts moments de votre texte, comme ça, en travaillant des citations plus ou moins explicites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Vous voulez dire des titres, mm-hmm. des chapitres? Oui, je me suis... je pensais que c'était de la prose, de la poésie aussi, parfois. Et... quelque chose d'explicite qui avait une référence, qui résumait un peu aussi, quelquefois, le contenu ou qui a ajouté au contenu des chapitres.
Et dans ces titres-là, il y a des clins d'œil qui sont faits à vos propres lectures. Odurava Olafsdottir, à la fin du texte, vous remerciez comme ça, enfin vous dites que vous avez fait quelques emprunts ou quelques références. Pour vous, c'est un clin d'œil que vous faites à vous-même ou c'est aussi un clin d'œil que vous nous faites en disant voilà, c'est aussi ponctué de mes propres lectures?
Un petit peu, ça là, de tout cela, oui. Une ode à ces écrivains, ces auteurs.
Qui ont quelle place dans votre processus d'écriture à vous?
Ils comptent, oui.
Vous les lisez beaucoup. Pendant que vous écrivez?
Pas forcément, je les connaissais déjà avant, mais il faut dire que moi, j'ai commencé à lire... des auteurs étrangers pendant mes études à Paris et en Italie. Des auteurs qui n'étaient pas traduits, que je connaissais pas avant, qui avaient une voix qui était différente des auteurs que j'ai connus en Islande. Et moi, j'ai aussi, j'ai trouvé, j'ai senti que je me trouvais entre deux langues. Moi, j'étais une étrangère, toujours en parlant le français, mais j'ai fait la connaissance de l'islandais comme si c'était une langue étrangère à part.
En lisant des textes islandais?
Oui, mais en lisant des auteurs étrangers aussi. Mais en vivant en quelque sorte entre deux langues comme un traducteur. C'est un pont qu'il fait entre deux cultures. C'est pas seulement question de traduire le grammaire, les mots. Le plus difficile, en tout cas dans mon cas, c'est de traduire ce qu'il y a entre les mots.
Et c'est encore comme ça que vous vivez, comme une sorte d'écrivaine traductrice? Ou de lectrice traductrice?
Là, je sais pas, mais évidemment, en étant une écrivain, on voit le monde, la réalité un peu en biais. On le recrée avec son imaginaire. Pour moi, l'imagination, ça fait partie de la réalité.
La fin de votre roman est nourrie d'échanges de lettres, d'échanges de missives. On va écouter Jean-Pierre Guénaud sur cette forme-là.
Ce qui est formidable avec la lettre, c'est que contrairement à certaines œuvres dites d'auteur, de fiction ou autre, c'est forcément un acte tourné vers l'autre. Sinon, ça n'a pas de raison d'être. On peut très bien écrire pour soi. Certains auteurs, après tout, pourraient très bien ne pas attacher d'importance au fait de ne pas avoir de lecteur. Parce que l'acte d'écriture, il est à la fois tourné vers soi, parfois vers les autres, pas toujours. La lettre est forcément tournée vers l'autre. Et alors là, il y a un effet boomerang. Parce que prendre le temps d'écrire à quelqu'un, c'est d'une certaine façon prendre aussi le temps de s'écrire à soi-même. Je ne sais pas si la distinction doit s'opérer dans la mesure où longtemps, la correspondance a tenu de la pure distraction et du travail. Ça ne s'était pas dissocié, ça faisait partie de la même chose. Tous les soirs, quand ils avaient travaillé, un certain nombre de peintres, d'intellectuels, de gens, prenaient la plume et communiquaient, et se tournaient vers les autres, vers leurs amis. Et puis, certains pour lesquels il y a des milliers et des milliers de correspondances. C'est quelque chose d'hallucinant. Et en fin de compte, il n'y a pas de cloison étanche entre ce qui nous fait vivre, au sens matériel du mot, et ce qui nous élève. On a la chance, c'est pas donné à tout le monde, d'avoir des passions et des métiers compatibles. C'est un peu ce qui arrivait à tous ces gens-là. Et c'est pour ça que la correspondance, qui est par essence le lieu d'échange, eh bien, était le reflet permanent de tout ça.
Ma chère éclat, j'espère que tu ne m'en voudras pas si je t'appelle ma chère éclat, car tu as encore et tu auras toujours une place dans mon cœur. J'espère qu'il sait m'a donné la bonne adresse. La dernière fois que je t'ai écrit, la lettre m'est revenue avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ». En réalité, je suis soulagée que tu ne l'aies pas reçue. Elle était trop mièvre. Ça ne faisait pas très longtemps que tu étais partie sur ce bateau et elle était pleine de jérémiades. Toutes mes pensées tournaient autour de toi. Depuis, ma situation a changé. J'ai rencontré une jeune fille originaire de Vikirmirdal et je suis désormais chauffeur de taxi. J'ai arrêté d'écrire. De toute façon, je n'ai rien à dire. Maintenant, je ramène les poètes chez eux après leur soirée dans les bars. Je travaille souvent 12 heures de suite, parfois aussi le week-end. J'ai entendu parler de ton manuscrit au Moka. Aki Vangil l'a lu, de même que quelques autres. C'est la sœur de son voisin qui connaît le relecteur de la maison d'édition qui le lui a confié. Voilà ce que je tiens à te dire, éclat. Tu as un don du ciel. Tu as du courage. Bien que je ne sois plus poète, je sais reconnaître la bonne littérature. Jamais je ne t'oublierai. Ton ami pour l'éternité, Stakkadur Pirtusson.
Il s'agit d'un dernier extrait de votre roman Miss Island, Odurava Olafsdottir. Jeanne Aléos lit cette lettre adressée à votre héroïne Hekla. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette forme de la correspondance pour que la fin de ce roman en soit à ce point composée?
Ouais. Oui, c'est la communication tournée vers l'autre comme ça, mais c'est une forme de communication qui se fait plus. Et la lettre qu'on a entendue parle d'un manuscrit qui était censé être perdu, mais qui réapparaisse et on le trouvera peut-être dans des livres de quelqu'un de cette société d'hommes. Moi, j'ai entendu après plusieurs histoires comme ça. Et à l'époque, évidemment, les poètes qui passaient leur vie dans les bars, c'était pas, le manuscrit se trouvait pas dans l'ordinateur. Alors, donc, ça se perdait. Des manuscrits, et ça, c'est devenu une sorte de mythe, ces manuscrits qui étaient perdus, mais qui auraient pu avoir un prix, évidemment, c'est, et c'était toujours le meilleur qu'avait écrit à l'écrivain. C'est ce qu'il avait perdu en étant sous. Mais et là, c'est... Oui, ça résume un peu leur de vie. Elle va continuer à écrire, le poète, dans le roman, son ancien amoureux. Il est maintenant chauffeur de taxi, il conduit des poètes.
Est-ce que cette idée de manuscrit perdu comme ça, c'est votre manière de penser à tous ces textes qu'on ne lira peut-être jamais ou qu'on n'a jamais lu, écrit ou dit à l'oral par les femmes, leur mère et leur grand-mère?
Oui, tout à fait. En tout cas, c'est pas un roman qui parle des auteurs officiels de l'Islande à l'époque. Mais il dit que l'écriture, c'est ça un peu le sujet, l'écriture se déniche dans les endroits et chez les gens où on ne l'attend pas.
Merci beaucoup, Odurava Olafsdottir. Ce roman s'appelle Miss Island, il est paru aux éditions Zulma, il est traduit de l'islandais vers le français par Eric Bourri, et puis on peut dire que il vous a valu le prix Médicis étranger. Merci à vous.
Merci. It was more like a dream than reality. I must have thought it was a dream while he was here with me. When he was near, I didn't think he would leave. When he was gone, it was too much to believe. So with tomorrow, I will borrow.
À la prise de son ce soir, c'était Clément Daté, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast via toutes les bonnes applications. Très belle soirée à vous, il est bientôt 22h et c'est bientôt le journal.
Someday won't be time just to look behind. No more reasons or descriptions for my place in mind. There was so much I was told it was not real. So many things I could not taste but I could feel. So with tomorrow I will borrow another moment. Joy and sorrow, and another dream, and another with tomorrow.